Nous sommes venus ce soir pour que le Seigneur nous visite et qu'il nous bénisse. Nous sommes venus recevoir la parole et la parole de Dieu nous dit de serrer cette parole dans notre cœur. Donc nous allons présenter nos cœurs au Seigneur afin qu'il débarrasse nos cœurs de tout ce qui peut empêcher à sa parole de s'implanter dans nos cœurs. Nous allons prier. Que le Seigneur débarrasse nos cœurs de toute amertume. Qu'il débarrasse nos cœurs de tout souci. Les rancœurs. Évacuons le manque de pardon. Il y a peut-être des projets dans nos cœurs qui occupent toute la place et qui empêchent. Qui pourrait empêcher à la parole de Dieu de s'installer. Mettons-les de côté. Ça peut être des préoccupations concernant des marchandises ou un terrain. Mettons-les de côté. Tout souci de notre cœur, évacuons-les. Demandons au Seigneur de prendre toute la place dans notre cœur. Notre cœur, c'est sa maison. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de sa présence.
Ta justice est juste, la justice du Seigneur.
Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir rassemblés ce soir. Nous sommes venus t'écouter, ô Seigneur, et nous nous disposons comme un instrument entre tes mains. Afin que nous puissions partager ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Donne-nous, Seigneur, de ne pas l'écouter comme nous aurions écouté un cours de physique ou de mathématiques ou d'histoire géo. Donne-nous, Seigneur, d'écouter par nos cœurs, que les oreilles de nos cœurs s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce soir, c'est restitue. Dis à ton voisin, restitue. Hier, dans l'enseignement d'hier, qui avait pour thème paix pour gagner, nous avons appris qu'en renonçant, on accède à une véritable vie de disciple. Nous avons appris que renoncer à quelque chose ou se dépouiller de quelque chose peut produire des effets intérieurs et extérieurs qui nous sont bienfaisants, comme la paix, la liberté, le bien-être, l'élévation, l'humilité et autres. Nous avons aussi vu que le dépouillement consiste à se débarrasser de ce qui peut être, qui est peu utile à l'homme et qui empêche notre communion avec Dieu. Nous avons également vu que le dépouillement purifie, consacre à Dieu et rend capable d'accomplir de bonnes œuvres. Bien-aimé, la restitution dont il est question aujourd'hui s'inscrit dans la même démarche, une démarche de déconstruction. Il s'agit de déconstruire notre vieille vie pour pouvoir vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. La restitution est l'un des ingrédients de la repentance. Nous savons que dans la repentance, il y a ces trois étapes. Le regret d'avoir offensé Dieu et le prochain. La décision de changer, puisque repentance signifie demi-tour. La décision de changer de direction. Et puis, la réparation des torts. La réparation des torts commis constitue donc la restitution. Mon frère, ma sœur, si tu veux faire des progrès dans ta foi chrétienne, dans ta vie, tu dois restituer. Dis encore à ton voisin, restitue. Nous allons d'abord voir le concept de restitution. Nous allons parcourir toute la Bible pour savoir qu'en dit la Bible, quelle est l'opinion de Dieu sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons comment appliquer cela dans nos vies pour progresser. Le concept de restitution. Dans nos manuels, nous avons des définitions. Mais avant d'arriver au manuel, restituer, c'est rendre à son propriétaire légitime quelque chose. Restituer, c'est rendre à son propriétaire légitime quelque chose. Ça, c'est ce que nous dit le Larousse. Le dictionnaire universel nous dit « Restituer, c'est rendre ce qu'on détient indûment. » Certainement, il y a des choses que nous détenons indûment. Nous n'avons pas le droit de détenir ces choses, mais ils sont en notre possession. Devant Dieu, c'est une situation un peu grave. Dans notre manuel, il est dit « La restitution, c'est l'action de faire des amendements pour les torts commis à autrui, de retourner les choses mal acquises, des biens, même des personnes, à leur juste propriétaire. » Il est dit aussi que c'est l'action de rembourser les dettes, de donner un retour là où on a fraudé, de se confesser à ceux qu'on a blessés d'une manière ou d'une autre. Mais dans les dictionnaires bibliques, il est dit que restituer, la restitution, c'est l'action de réparer les torts qu'on a commis et de rendre ce que l'on a pris de l'autre sans son consentement. Rendre autant que possible tout ce que l'on a pris avec intérêt. La marche avec Dieu exige que tu sois prompt à restituer à autrui ou à Dieu ce qui lui revient de droit. Donc ce n'est pas un simple acte moral, mais c'est une exigence. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, de quoi il est question. La restitution dans l'Ancien Testament. Nous prenons d'abord le texte d'Exode 22, les versets 1 Le verset 3 à 6 et le verset 14. En cas de vol, si c'est un bœuf, on restitue 5 bœufs. Si c'est un agneau, on restitue 4 agneaux. Ça, c'est au verset 1. Tout voleur doit restituer. Et s'il n'a rien pour restituer, il sera vendu. Ça, c'est au verset 3. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Ça, c'est le verset 4. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Verset 5. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Ça, c'est le verset 6. Si un homme emprunte à l'autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meure, il y aura restitution. Verset 14. Le deuxième texte se trouve dans Lévitique, chapitre 5, les versets 14 à 26. Ici, on montre d'autres situations dans lesquelles les biens volés sont restitués en plus du cinquième de la valeur qui a été volée. Ici, la restitution est faite au légitime propriétaire et la compensation devait s'accompagner d'une offrande de culpabilité qu'on donnait à Dieu. C'est ce que nous lisons dans Lévitique chapitre 5. Il est à noter que tout tort qui était commis affectait la relation de l'offenseur avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle une offrande de culpabilité devait être offerte pendant la restitution. Le troisième texte, c'est Nombres chapitre 5, 6 à 8. Ici, on répète, l'objet mal acquis est restitué plus un cinquième. Mais il y a une précision ici. Si personne n'a droit à la restitution, l'objet mal acquis revient à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Si vous ramassez l'argent dans le couloir là, on demande à qui appartient cet argent avec les preuves et qu'il n'y a personne. Cet argent revient à qui? Lévitique 25, versets 8 à 16, les versets 27, les versets 28. Il s'agit du jubilé. Le jubilé, c'est 50 ans. Parlant du jubilé, parce que c'est l'année où on annule toutes les dettes, vous comprenez que la restitution est concernée. Et à la veille donc de cette année de jubilé, il y a une clause qui réduit la restitution au surplus. Nous tombons maintenant dans 2 Rois 8, verset 6. Nous avons l'exemple du roi Akab qui va restituer à la femme tsunamite. La femme tsunamite, c'est cette femme dont le fils a été ressuscité par Élisée. Donc Akab s'est approché de Géasi, l'assistant d'Élisée, pour avoir les nouvelles du prophète. Et pendant que Géasi lui raconte les miracles que Élisée a opérés, la femme tsunamite était de retour, puisque Élisée lui avait demandé de quitter le pays pour 7 ans. Il devait avoir 7 ans de famine. Elle était donc de retour. Alors, le Seigneur a voulu que cette femme arrive juste au moment où le roi était devant Géasi. La femme a demandé qu'on lui restitue sa concession et tous ses biens. Le roi l'a fait, alors que c'était un méchant roi. Nous le savons tous. Le prochain texte, c'est Ézéchiel 33, et versets 14 et 15. Ézéchiel. Avant d'arriver à Ézéchiel, je voudrais signaler aussi que le roi de Syrie, Ben-Hadad, dans 1 Roi 20, verset 34, a restitué les territoires qu'ils avaient pris à Israël. Dans Ézéchiel 33, nous apprenons: si le méchant revient de son péché, pratique la droiture et la justice, restitue le gage ou l'objet volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre d'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Vous avez vu toutes les conditions, non? Et la conséquence. Dans Proverbes 6, versets 30 et 31, le coupable devait restituer au septuple. C'est-à-dire multiplié par 7. Pour celui qui vole lorsqu'il a faim. Je me suis posé des questions. Ailleurs, on multipliait par 4, par 5, ou on donnait plutôt le cinquième. Mais dans Proverbes, on demande que si quelqu'un a volé parce qu'il a faim, il va remettre multiplié par 7. Pour quelle raison? Bon. Dans Genèse 33, 1 à 15, nous voyons le cas du différend entre Jacob et Ésaü. Ésaü est annoncé avec 400 soldats vers le lieu où se trouvait David. Et David s'est souvenu qu'il avait fui parce que Ésaü voulait le tuer. Non, je ne parle pas de... Je parle de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, c'est deux frères. L'un est l'aîné. Le cadet a volé le droit de naissance de l'aîné, ainsi que ses bénédictions. L'aîné s'est fâché et a menacé de le tuer. Il a été exilé chez son oncle par sa mère pour ne pas être tué. Alors, lorsque la menace de la présence d'Ésaü se fait sentir, David prépare les cadeaux. Jacob prépare les cadeaux, je m'excuse. Jacob prépare les cadeaux et il prend tout ce qui lui appartient. Il place les femmes et les enfants devant. Mais les gens qui lui étaient précieux sont proches de lui. Et il va à la rencontre d'Ésaü. Il s'est prosterné 7 fois et a remis les cadeaux. Son frère ne voulait pas les cadeaux, mais il a insisté. c'était une façon pour lui de restituer par rapport au tort qu'il a commis à son frère. C'est intéressant de lire ce passage pour le comprendre, mais nous n'allons pas le lire ici. Nous revenons dans Joël 2, le verset 25. Le Seigneur dit par la bouche du prophète Joël qu'il va remplacer les années qu'ont dévoré son armée. Il le dit parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Il ne le dit pas parce qu'il a commis une faute. Dieu est saint. Il ne commet pas de faute. Il avait puni Israël. Mais dans sa miséricorde, il lui annonce qu'il va remplacer ce que son armée a dévoré. Son armée, c'était les sauterelles, les grillons qu'il avait envoyé dévaster Israël. Il y a bien d'autres textes qui parlent du dédommagement, de la réparation des torts, de la restitution. Les textes sont nombreux. Nous concluons que dans l'Ancien Testament, Dieu a pour son peuple établi des normes lié à la restitution. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a un cas, le cas de Zachée, Luc 19, les versets 1 à 10. Zachée dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est au verset 8. Que comprendre de ces paroles? Nous pouvons déduire de ces paroles que Zachée se sentait coupable d'avoir extorqué les gens. Il avait du remords par rapport à ses actions passées. Et il était prêt à faire la restitution. Avait intérêt. Et Jésus de lui dire: le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça, c'est au verset 9. Que comprendre des paroles de Jésus? Jésus nous dit ici que Zachée a été sauvé ce jour-là et ses péchés lui ont été pardonnés. Et la preuve de ce salut était à la fois la confession publique de Zachée, mais aussi le renoncement au bien mal acquis. Zachée s'est repenti et sa sincérité était évidente dans son désir de restituer immédiatement. Bien-aimé, si tu aspires à une vie qui plaise à Dieu, une vie d'intimité, pratique la restitution. Cela montre la sincérité de ta repentance. Et comme pour Zachée, le Seigneur te reconnaîtra parmi les fils d'Abraham, c'est-à-dire les enfants de Dieu authentiques. D'ailleurs, dans Matthieu 5, les versets 23 et 24, le Seigneur conditionne le fait d'agréer nos offrandes par la restitution. Il demande à celui qui vient offrir quelque chose, lui offrir quelque chose, de rentrer. S'il se rappelle qu'il a des problèmes avec son prochain, qu'il aille régler d'abord ses problèmes avant de venir donner son offrande. Et souvent, nous avons suivi ici que ce n'est pas parce que nous avons apporté les offrandes que Dieu les reçoit. Il y a les conditions pour que Dieu accepte nos offrandes. Nous devons donner dans des conditions telles que Dieu agrée nos offrandes. Nous devons faire très attention. Parce que il ne suffit pas que les anciens prennent, que le pasteur bénisse et qu'on aille travailler avec. Ça ne suffit pas. Dans ce panier-là, est-ce que le Seigneur a agréé ton offrande? C'est peut-être le produit du vol. Peut-être tu n'as pas fait ce que le Seigneur demande. Tu ne t'es pas accordé avec ceux avec qui tu es en conflit avant de venir donner. Il y a beaucoup de conditions pour que les offrandes soient agréées. De tout temps, Dieu ne tolère pas que l'on possède injustement ou avec fraude un bien. Nous allons donc, bien-aimés, après ce parcours de la parole de Dieu qui nous a enseigné que la restitution est une exigence divine. Nous allons maintenant voir les bienfaits de la restitution. Nous allons aussi voir les méfaits de la non-restitution. Parce que si on voit une seule face de la pièce, on n'aura pas bien regardé. Les bienfaits de la restitution. Dans nos manuels, on nous a rappelé qu'elle restaure les relations brisées. L'exemple de Jacob et Ésaü. Elle renforce la communion avec Dieu. Parce que l'appel à la repentance ou au retour à Dieu est comme une restitution. Chacun de nous est un bien de Dieu. Lorsque nous nous éloignons et que nous revenons à Dieu, c'est une restitution. La restitution est une porte ouverte à la bénédiction. Celui qu'on a dépouillé par vol ou par fraude, celui à qui un tort est commis, peut proférer des paroles contre son offenseur et que ses paroles agissent. Quand Proverbe nous dit que malédiction sans cause n'a pas d'effet, ça signifie que malédiction avec cause a les effets. Le même proverbe nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, plusieurs, certainement, que ce soit dans la communauté ou en dehors de la communauté, peuvent souffrir simplement parce qu'ils ont reçu des malédictions avec cause. Ne nous contentons pas de réciter que Jésus a pris sur lui nos malédictions. C'est les malédictions de la loi. Ça veut dire que si tu commets des péchés maintenant, les malédictions de ça vont jouer dans ta vie. La restitution redonne du crédit à quelqu'un qui a péché, qui a offensé les autres devant les hommes. Nous avons vu l'exemple de Zachée. Nous pouvons venir présenter un thème, prêcher, faire beaucoup de choses. Mais, si nous avons un cas de restitution, je suppose qu'il y avait quelqu'un dans la salle à qui je dois 50 000 francs. Depuis, je le jongle, je tourne, je ne rembourse pas. Ou bien ça fait 4 mois, je n'ai pas payé mon loyer et mon bailleur est là. N'est-ce pas? Vous croyez qu'il peut suivre ou écouter ce que nous racontons là? Il va se moquer. Donc, Zachée est devenu crédible, sérieux, parce qu'il s'est engagé à restituer sur le champ. C'est ça le résultat. Cela montre qu'il a été touché au fond de lui. Mais généralement, puisque la repentance est exigée pour être pardonné, bon, chacun dit, coule les larmes, Seigneur, pardonne-moi. Et le lendemain, il reprend la même chose, ce qui signifie qu'il a fait une fausse repentance. Les méfaits de la non-restitution. Lorsqu'il n'y a pas restitution, nous vivons une vie de tension et d'isolement. Parce que les relations brisées favorisent cette atmosphère de guerre. Prenons le cas de quelqu'un qui a peut-être commis un meurtre. Vous croyez que cette personne est en paix? Ce n'est même pas possible. Parce que cette personne subit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. La parole de Dieu nous dit que le sang de la personne tuée crie dans le sol devant Dieu contre cette personne. Cette personne ne peut pas avoir la paix. Genèse 4, verset 10. Il y a la voix du sang versé. Et quand on regarde notre pays, combien de voix du sang crient dans ce pays. Caïn a été obligé de fuir devant la face de l'Éternel. Autre méfait de la non-restitution, le blocage de la communion avec Dieu. À cause de la culpabilité. Quand le sentiment de culpabilité vous affecte, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Si vous détenez quelque chose indûment chez vous, vous en êtes conscient. Venez prendre la Sainte Cène. Votre cœur va vous dire, en prenant, rappelle-toi que il y a telle chose que. Il y a le blocage de nos bénédictions. Néhémie 9, verset 13. Proverbe 26, verset 2. Et quand on parle de blocage de bénédictions, Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Mais la vie que nous menons, est-ce que cette vie c'est réellement le plan de Dieu pour nous? Les bénédictions de beaucoup de gens sont bloquées. Il y a des gens ici qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas rendu visite à leur maman depuis 4 ans. Il suffit qu'ils prennent la résolution d'aller acheter même seulement quoi? Le Mbunga. Allez dire, maman, je t'ai abandonné, c'est pas normal. Et que ses affaires reviennent à la normale. Il y a beaucoup de cas. Les bénédictions sont bloquées à cause de la non-restitution. Vous ne pouvez pas être en conflit à l'intérieur de votre cœur et croire que vous allez recevoir les bénédictions. Même cette parole de Dieu, elle ne peut pas se fixer. Puisque le cœur, c'est l'aéroport où atterrit la parole de Dieu, non? Dieu est dans sa parole. Vous avez déjà vu un avion. Dès qu'il y a quelque chose sur le tarmac, même si c'est un mouchoir, on va dire il y a un problème. Dégagez d'abord le mouchoir avant que l'avion atterrisse. Il en est de même la parole de Dieu. Pour qu'elle entre dans votre cœur, il faut enlever tous les obstacles que vous avez mis dans votre cœur. Bien-aimé, il y a la perte de crédibilité. On en a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi des blocages à la restitution. Vous pouvez vouloir restituer et être bloqué parce que vous avez peur. Si votre société a conditionné les gens de façon que ils voient comme un abaissement le fait que vous vouliez restituer, vous ne pourrez pas. Dieu veut que tu sois un vainqueur face à la peur. Si tu veux restaurer ta relation avec lui et avec ton prochain, tu dois vaincre la peur. Tu dois vaincre la peur de l'humiliation. Tu dois également vaincre l'orgueil, c'est-à-dire la fierté. Tu peux penser que réparer les torts que tu as commis, c'est te faire petit. Parce que tu es un grand. Tu ne peux pas demander pardon aux gens comme nous, comme ça. Mais c'est une exigence de Dieu, même si je suis petit. Dieu te l'exige. Il y a le fait de remettre toujours à demain. Dieu t'offre les opportunités chaque jour. Pour restituer, tu dis, bon, demain je vais le faire. Demain peut être très, très tard. Vous savez qu'un Boeing 737 est parti en fumée avec 157 personnes dedans, non? Il y a certainement dedans des gens qui avaient promis de restituer quelque chose à l'arrivée ou après. La restitution de nos jours, sa dernière partie, que retenir de tout ce que nous avons appris? Quiconque connaît véritablement Christ de nos jours doit pratiquer la restitution. Deuxième leçon, une repentance véritable conduit au désir de redresser, de rectifier les erreurs commises dans le passé. Et lorsqu'on devient chrétien, né de nouveau, on ressent le désir profond de faire le bien, de restituer. Troisième leçon, il y a des situations où la restitution est impossible et même très difficile. Que faire dans ce cas? Si quelqu'un est dans un tel cas, il faut voir les pasteurs ou bien les chrétiens mûrs pour avoir les conseils, pour être suivi. Parce que certainement, des gens peuvent se trouver dans des cas de restitution impossibles. Si tu as coupé le bras de quelqu'un, tu vas restituer comment? Si tu as engrossé une fille et elle a avorté, elle est morte, tu vas restituer comment? À qui? On dit au légitime propriétaire, tu vas restituer à qui? Si tu ne peux pas restituer, parce que c'est impossible, Ne laisse pas la culpabilité t'envahir. Traite ce problème avec Dieu. Cinquième leçon. La restitution n'est pas un prérequis pour être sauvé. Comme nous avons vu pour le cas de Zachée, c'est plutôt le résultat du salut. C'est un indicateur que cette personne s'est vraiment repentie et a cru en Jésus-Christ. Que faire, bien-aimé? Restitue les biens mal acquis ou volés que tu détiens indûment. Les gens t'ont donné des biens à garder. Et même s'ils sont morts, ils ont des ayants droit. Tu gardes pourquoi? Tu caches pourquoi? Restitue. Peut-être la femme et les enfants ne savent pas que c'est chez toi qui gardais son argent. Tu dois remettre. Il y a des gens qui t'ont prêté des biens pour que tu les utilises pour un temps, mais tu ne les as pas encore rendus à leur propriétaire légitime. Bien que les délais soient passés, restitue, remets. Tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Va t'excuser. Si tu ne peux pas aller t'excuser, honore donc tes promesses. Tu as utilisé des faux diplômes, des faux actes de naissance, des fausses identités, des faux papiers, des outils falsifiés. Le Seigneur te regarde. Tu dois restituer. Tu dois restituer. Chaque fois que tu empruntes un matériel et qu'il se détériore, soit tu repars, soit tu remplaces. Ta chèvre, tes poulets, tes porcs ont brouté les champs des voisins. Tu dois restituer. Ton chien a causé du tort à des passants. Tu dois réparer. Tu dois restituer. Tu as ramassé de l'argent en route. Cherche le propriétaire. Au fait, si tu ne peux pas retrouver le propriétaire, si tu ne peux pas retrouver le propriétaire, donne cet argent à l'église ou à un orphelinat ou même à la prison. En donnant là-bas, tu remets toujours au propriétaire de toute chose. Surtout, n'utilise pas cet argent. Parce que si tu utilises cet argent, ne crie pas après pour venir embêter les gens ici que mon argent est toujours avalé. Hein? Règle toutes tes dettes. Règle toutes tes dettes. Sinon, ça te regarde. La restitution est la marque d'une repentance sincère. Nous concluons ainsi. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois pratiquer la restitution et encourager les gens à le faire. En réparant les torts, en restituant ce qu'on détient indûment, c'est alors que la paix de Dieu peut inonder ton cœur. Mon frère, ma soeur, restitue et sois béni. Amen. Nous allons prier. Dis merci à Dieu, bien-aimé. qui lève en ce jour un pan de voile sur les causes de blocage de nombreuses bénédictions dans ta vie. Dis merci à Dieu qui en ce jour te délivre de la détention indue des biens des autres, de l'abus de confiance, des promesses non tenues, de l'utilisation des faux papiers, des relations illicites. Des cœurs que tu as blessés ou brisés. Dis merci à Dieu qui t'ouvre une porte de sortie. À condition que ta repentance soit sincère et que tu t'engages à réparer les torts. Bénis l'Éternel, le Dieu saint, qui exige la restitution, la réparation des torts, les compensations et le dédommagement pour les torts commis contre autrui. Et maintenant, bien-aimé, repens-toi. Regrette l'offense. Décide de faire demi-tour et de restituer, de remplacer, de dédommager, de compenser. Le Christ attend à la croix avec son sang pour récupérer tes fardeaux. Il a déjà payé le prix. Il veut te purifier de toutes les souillures dont tu t'es couvert. À travers ses péchés. Sois sincère. Son précieux sang te lave de tous les abus. De tout ce qui fait la distance entre toi et lui. Dis merci à Dieu pour le pardon de tes péchés. Et maintenant, demande l'aide de Dieu. Demande à Dieu de t'accorder la grâce pour rembourser toutes les dettes, pour réparer les torts commis. Donner le pardon. Obtenir le pardon. Panser les blessures. Guérir les cœurs que tu as brisés. Refaire les vies que tu as sabotées. Demande au Seigneur qu'il t'accorde la grâce d'être débarrassé des obstacles qui se sont installés dans ta vie du fait de ces choses, les promesses non tenues, les abus. Tu as certainement reçu des crédits dans ton téléphone par erreur et que tu n'as pas retourné. Demande pardon et demande la grâce pour retourner cela. Que le Seigneur t'aide à pardonner à ceux qui te doivent et qui leur donne la force pour qu'ils te remboursent ce qu'ils te doivent. Le sang des innocents crie dans la terre contre toi et tu n'es pas en paix. Impossible pour toi de restituer ces vies. Demande la grâce de Dieu. Lui seul peut réparer les torts que tu ne peux pas réparer. Qu'il t'accorde sa paix. Tu as utilisé des faux papiers, des faux documents pour lesquels tu as honte maintenant que tu es sel et lumière. Si c'est encore possible de restituer, que le Seigneur t'aide. Mais si ce n'est pas possible de réparer, demande la grâce de Dieu pour avoir la paix. Si tu es dans une relation illicite, contraire à la volonté de Dieu, souviens-toi que dans Proverbes 6, les versets 27 et 28, il est écrit que tu ne peux pas mettre du feu dans ton sein sans que tes vêtements brûlent, que tu ne peux pas marcher sur le charbon ardent sans que tes pieds soient brûlés. Demande la force à Dieu pour te dégager de ces relations illicites et pour avoir la paix. Que le Seigneur te guérisse ainsi que toutes tes victimes. Que le Seigneur nous guérisse au nom de Jésus-Christ. Amen.